Ce Shabbat avec l'aide de Dieu, on va lire la paracha Tekev. Et pour introduire le sujet du Dvar Malchut du Rabbi sur cette paracha, j'ai pensé qu'il était bien de donner une histoire, de se rappeler d'une histoire avec Rabbi Futterfass. Rabbi Futterfass est un grand chassid du Rabbi. Il a raconté qu'un jour, alors qu'il se trouvait à un endroit où il était difficile même de se procurer de la nourriture, et encore moins de se procurer des écrits saints, des livres de Torah, des livres pour étudier, il a vu un jour un chassid qui rassemblait des pages qui n'avaient aucun rapport les unes avec les autres et qui étudiait la Torah sur ces pages-là. Alors il a demandé, mais comment tu fais pour étudier des choses qui ne sont pas liées les unes avec les autres? Tu prends l'extrait d'une Mishnah avec l'extrait d'un texte de Chassidut, tu prends un extrait qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, tu étudies ces mots, ces extraits de la Torah sans voir la continuité, sans voir le lien des choses les unes avec les autres. En quoi ça consiste cette étude? Et alors le chassid a répondu à Rabbi Futterfass qu'il y avait trois sortes d'études de la Torah. La première sorte d'étude, c'est le fait de s'attacher à la compréhension elle-même. Même si le Chabad, ça signifie Chokhma, Bina, Da'at, ce sont les forces de l'intellect. C'est la faculté d'un juif de s'attacher de manière profonde à ce qu'il étudie, au point même de ressentir ce qu'il étudie. Donc c'est de mettre en éveil toutes les forces de son intellect, de se mettre vraiment au service de l'intellect pour approfondir le plus possible ce qu'il étudie, pour comprendre le plus possible, pour aller au plus profond dans le pshat, le rimez, le drash, le sod, et de manière à ressentir même ce qu'il étudie. Donc cette étude-là, elle est liée avec les forces de l'intellect, avec même les sentiments et même l'action, puisque toute étude, elle doit mener à l'action concrète. Maintenant, le point, l'accent, il est mis sur la compréhension. La seconde sorte d'étude de la Torah, c'est le fait non pas d'essayer de comprendre ce qu'on étudie, mais c'est surtout le fait de soumettre son intellect à l'intellect divin. C'est-à-dire, c'est pas vraiment de comprendre ce qu'on étudie, mais c'est le fait d'étudier pour se soumettre à la volonté de Dieu. Étudier la Torah, c'est un commandement divin. Dieu, il attend de chaque juif qu'il unit son esprit à celui de Dieu, à son esprit lui-même. Donc, ça exige la plus totale soumission. Donc, pour certains, l'importance de l'étude de la Torah, elle s'accorde avec le fait de se soumettre, une totale soumission vis-à-vis de l'Éternel. Ça, c'est pour la seconde sorte d'étude de la Torah. Et la troisième sorte d'étude de la Torah, elle est liée avec Pnimiut HaNefesh. C'est-à-dire que cette étude-là, elle consiste seulement dans le fait de regarder les lettres de la Torah. Ça, c'est l'enseignement que le chassid il a donné à Rabbi Futterfass. Par le simple fait de regarder les lettres de la Torah, alors on attire en nous-mêmes la sainteté de ces lettres, et de manière à ce qu'elles pénètrent en nous-mêmes. On s'attache à la Kedusha, on s'attache à l'Esprit Saint de Dieu par le simple fait de regarder la forme des lettres qu'on étudie. Des lettres qu'on regarde, plutôt. Le simple fait de regarder les lettres. Alors le chassid, il a déclaré à Rabbi Futterfass que cette étude-là, elle est au-delà de l'intellect. Elle est vraiment au-delà de l'intellect puisqu'elle atteint l'essence de l'âme juive. Alors on peut comprendre ça par le fait que chaque lettre de la Torah, elle possède un corps et elle possède une âme. Le corps de la lettre, c'est la forme de la lettre, la façon dont le Aleph ne ressemble pas au Bet, le Bet ne ressemble pas au Guimel. Chaque lettre, elle possède une forme particulière, un corps particulier, dans lequel va s'habiller une lumière particulière, une âme. Chaque lettre, elle possède un corps et une âme. Et ça, c'est le point qu'a souligné le chassid Rabbi Futterfass. Par le simple fait de regarder le corps d'une lettre, alors on s'emplit de sainteté, alors on éveille l'essence de notre âme, l'essence de l'âme juive qui est enracinée dans l'essence divine. Pourquoi cet enseignement il est important? Parce qu'on doit comprendre par là que le corps d'une lettre, il est semblable au corps même d'un juif. Puisque le corps d'un juif, il va révéler son véritable niveau au moment de la délivrance finale. La Morazaken, il a expliqué dans le livre du Tanya que Dieu, il a choisi le corps d'un juif. C'est pas seulement on ne doit pas seulement considérer l'âme juive, bien que l'âme juive elle est enracinée dans l'essence divine, mais on doit comprendre que le corps d'un juif, il a été choisi par Dieu. Non seulement Dieu il a créé le corps d'Adam Harishon avec la poussière de la terre, qui elle-même, sur laquelle allait être construit le Beth Amigdash, ça c'est un enseignement de Rashi. Donc on doit comprendre que la poussière de la terre, le corps d'un juif, il est lié avec le Beth Amigdash. Le corps d'un juif, il provient de l'essence divine. Dieu, il le crée à partir de son essence. Donc la matière, elle possède un niveau qui est supérieur. Et par le fait de purifier le corps, par le fait de manger kasher, par le fait d'accomplir les commandements divins qui sont eux-mêmes, qui sont tous eux-mêmes accomplis au moyen de la matière, de la poussière de la terre, par le fait de purifier la matière de ce monde et la matière du corps humain, alors on parvient à révéler l'essence divine qui est dissimulée à l'intérieur, puisque le corps lui-même, il provient de l'essence divine et non pas d'un processus de cause à effet, comme c'est le cas pour la descente de la lumière divine à travers tout l'enchaînement des mondes. Non, le corps d'un juif, il provient de l'essence divine. Ça, c'est le contenu d'une lettre que le Mori a écrite dans le Higrot HaKodesh, c'est la lettre 20. Et là-dessus, le Rabbi Rayatz, il a expliqué que comme les commandements divins, ils sont accomplis au moyen de la matière, et que la matière elle-même, elle provient de l'essence divine, alors il y a une supériorité de l'acte par rapport à l'étude de la Torah. Donc c'est très important ici de faire le lien entre cette histoire-là du chassid et de Rabbi Futterfass, quand il explique à Rabbi Futterfass que le simple fait de regarder le corps d'une lettre, c'est un acte qui est empreint d'une sainteté qui est supérieure à la chorma, qui dépasse totalement l'intellect, avec l'idée même que le fait de purifier notre propre corps, c'est le moyen d'attirer et de révéler à l'intérieur de celui-ci, à l'intérieur de ce monde, la présence divine. Ça, c'est l'idée même qui est exprimée par Dieu quand il dit « Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous ». Le sanctuaire, c'est notre propre corps. L'importance qui est donnée ici au corps, elle est soulignée dans ce Dvar Malchut de manière profonde. Dans tous les Dvar Malchut qu'on a étudiés pendant ce mois de Hav, on a appris l'importance d'élever notre âme et d'élever chaque juif en attirant en lui-même, dans lui-même qui est limité, une lumière qui est illimitée. Et ici aussi, le Rabbi, dans ce Dvar Malchut, à travers la parashat Ekev, il va nous expliquer l'importance du corps, l'importance de révéler l'essence divine qui se cache à l'intérieur du corps, puisque c'est le dévoilement même qui va susciter la venue du Mashiach. Cette supériorité du corps par rapport à l'âme, elle est exprimée souvent dans tous les enseignements de la Chassidoute. On explique que dans les temps futurs, la Séphira de Malchut, qui est la dernière des Séphirotes, donc c'est le talon, d'une certaine manière, le talon de toutes les Séphirotes, c'est-à-dire la Séphira qui est la plus basse et la plus inférieure, exactement comme le talon qui lui-même il supporte le corps tout entier. Donc la Séphira de Malchut, qui est aujourd'hui comme le talon, puisqu'elle reçoit toute sa lumière de toutes les séphirotes qui la précèdent, elle s'élèvera au-dessus de toutes les autres séphirotes. Donc on voit l'importance du talon par rapport à la tête. Ça, c'est cet enseignement-là, il est exprimé aussi par le Rabbi Rayatz, quand le Rabbi Rayatz, dans de nombreux discours chassidiques, il explique que le talon, il correspond à la partie du corps la plus basse, et malgré tout, le talon, c'est celui qui est capable de rentrer dans l'eau bouillante, alors que la tête, elle a du mal à rentrer dans de l'eau qui est bouillante, parce qu'elle est beaucoup plus sensible. Le talon, c'est matériel, c'est quelque chose, c'est la partie du corps qui est la moins sensible, qui est la plus grossière, et c'est précisément pour ça qu'il a la capacité de pénétrer dans l'eau bouillante. Donc, c'est lié avec le fait que, comme on l'a dit, le corps, il est lié avec les sens divines. C'est précisément par le fait que le corps, il est grossier, qu'il a la possibilité de pénétrer dans l'eau bouillante. Ça, de manière profonde, ça veut dire que le corps, il correspond à l'action, et l'action de donner son âme pour Dieu, c'est-à-dire vraiment comme Abraham, il s'est jeté dans le feu, il n'a pas hésité à se jeter dans le feu, ça c'est illustré par l'image du talon qui pénètre dans l'eau bouillante. Donc cette capacité d'Abraham, qui est liée au talon, donc de donner sa vie pour Dieu, elle exprime le niveau supérieur du talent, c'est-à-dire la capacité de Messirut Nefesh. La capacité de Messirut Nefesh, elle découle de l'essence de l'âme juive. Donc on voit que la force d'Abraham de se donner, comme le Rabbi Rayatz il a dit, il a fait un jour le serment avec ses chassidim, de donner jusqu'à leur dernière goutte de sang pour diffuser les sources de la chassidut à l'extérieur. Ça, c'est la capacité de Messirut Nefesh. Ça, c'est lié avec le talon, la partie la plus grossière du corps, et comme on l'a dit, donc, le niveau supérieur du corps. Alors, on a donné l'exemple de la séphira de Malchut, qui elle-même représente aussi le talon, qui va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Mais on pourrait aussi donner l'exemple de la lune, que la lune, elle reçoit sa lumière du soleil, donc elle est comme le talon, elle est inférieure au soleil, puisqu'elle n'a pas de lumière qui lui est propre, et malgré tout, à l'exemple de la séphira de Malchut, un jour elle va devenir aussi grande que le soleil. On peut donner d'autres exemples. Dans le Likutei Torah, par exemple, on donne l'exemple de Yehuda et de Yosef. Quand Yehuda, il se rend vers Yosef, et qu'il le supplie, il l'implore de laisser partir leur frère avec eux, alors on voit ici que le Yehuda lui-même, il est inférieur à Yosef, alors que dans les temps futurs, Yehuda, il sera le roi, il va s'élever au-dessus de Yosef. Alors le Noir Zaken, il explique que Yosef lui-même, il correspond au cèdre, au tzaddik, à l'arbre, au tzomer, qui est au végétal, au niveau du végétal, alors que Yehuda lui-même, il représente le niveau de l'inanimé, de la pierre, de celui qui est vraiment le talon, celui qui se soumet à Yosef. Et l'inanimé, c'est la soumission, justement. Yehuda, ça vient de la chaîne Oda, le fait de reconnaître. Donc c'est le niveau le plus bas, l'inanimé, qui aujourd'hui, tel la pierre, tel le talon, comme on l'a dit, qui aujourd'hui, il semble être quelque chose qui n'a pas de force, qui n'a pas de vie, qui est inanimé, alors que dans les temps futurs, à l'exemple de la lune qui va s'élever au-dessus du soleil, on verra que l'inanimé, Yehuda, il va s'élever au-dessus de Yosef. Donc il y a plusieurs exemples qui peuvent être donnés à ce sujet. On peut aussi donner l'exemple de Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, même dans son nom, Akiva, ce sont les lettres de Ekev, de talon. Rabbi Akiva, il vient après Moshe Rabbeinu, et pourtant il y a une histoire dans la Gemara qui raconte qu'un jour, Moshe, il a surpris l'Éternel en train de dessiner des couronnes sur les lettres de la Torah, et il lui a demandé quelle était la signification de ces tagim, de ces couronnes. Et l'Éternel a répondu à Moshe que dans les temps futurs, il y aurait un sage du nom de Rabbi Akiva qui allait dévoiler à partir de chaque couronne des centaines d'alachot. Quand Moshe il a entendu ça, il était curieux, il a demandé à voir ce Rabbi Akiva. Alors l'Éternel lui a demandé de se retourner, et quand Moshe s'est retourné, alors il y a eu un miracle, et Moshe il s'est retrouvé dans l'assemblée des élèves de Rabbi Akiva, et il s'est assis, il a écouté le cours de Rabbi Akiva. Et, un fait surprenant, il ne comprenait pas du tout le cours de Rabbi Akiva. Alors, on peut se demander comment ça se fait. Comment ça se fait que Moshe lui-même qui reçoit la Torah de Dieu, il ne comprend pas un cours de Rabbi Akiva qui est lui-même considéré comme un élève de Moshe, puisqu'il vient bien après Moshe. Alors il s'est retourné, il est allé vers l'Éternel et il a demandé à l'Éternel, il dit « Mais qui est cet homme ?» Il lui dit « Pourquoi tu m'as donné la Torah à moi alors que lui-même il est plus élevé que moi ?» À partir de cette histoire-là, on doit comprendre que quelqu'un qui reçoit, comme on voit la lune, elle reçoit sa lumière du soleil, ou un élève, il va recevoir un enseignement de son maître, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore sa propre lumière, il ne fait que recevoir une lumière qui vient d'en haut. Malgré tout, s'il intègre cette lumière de manière profonde, alors il est capable ensuite de dépasser son propre maître. Donc on le voit pour Rabbi Akiva, et on le voit dans les exemples qui ont été donnés, comme la lune, elle reçoit aujourd'hui sa lumière du soleil, mais dans les temps futurs, elle deviendra aussi grande que le soleil. Ou comme la séphira de Malchut, qui ne fait que recevoir sa lumière de toutes les autres séphirotes, et pourtant dans les temps futurs, elle s'élèvera au-dessus de toutes les autres séphirotes. Donc on voit la capacité de Bitoul, c'est par la soumission la plus totale qu'on peut attirer les dévoilements divins les plus élevés. Et donc, être la soumission la plus totale, elle s'exprime tout particulièrement par le corps lui-même, puisque le corps, il fait partie de l'inanimé. L'inanimé, c'est le niveau de Yehuda, c'est celui qui parle pas, c'est celui qui reçoit une lumière, qui l'intègre de manière profonde, c'est celui qui est totalement soumis. Yehuda, la Shonoda, le fait de reconnaître Dieu, Modéani, c'est par le fait de reconnaître avant tout Dieu qu'on commence notre véritable existence. Alors c'est intéressant ici parce qu'on pourrait dire, sous la forme d'un chidouche, que le fait que l'Éternel y dessine des tagim, des couronnes sur les lettres, c'est lié avec ça justement. On pourrait dire que la couronne qui vient sur la lettre en elle-même, on en a parlé, on a dit qu'elle représente, elle possède un corps, donc le corps il est lié avec la soumission. À partir du moment où on se soumet à Dieu, alors on reçoit une couronne. Cette couronne, ce tag-là, dans la partie profonde de la Torah, elle est décrite comme une lumière qui procède de l'essence divine. On dit par exemple que le Yud du Shem Havayé, la première lettre du nom de Dieu, elle est surmontée par un petit tag. Et ce tag-là, ça correspond à la Séphira de Keter. Donc, c'est la Séphira de Keter, elle représente ce qui est au-delà de l'intellect. Comme on a dit, le fait de regarder une lettre, qui est simplement de regarder les lettres de la Torah, c'est une étude qui est au-delà de l'intellect. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée avec cette lumière-là qui dépasse le monde. Et ça, c'est exprimé par le fait que l'Éternel, il ajoute des tagim sur chaque lettre. À partir du moment où un juif, il se soumet à Dieu de manière profonde, alors il dévoile l'essence de l'âme qui est symbolisée par ce tag. Et on pourrait même dire que quand on dit qu'une épouse vertueuse elle deviendra la couronne de son mari, l'épouse vertueuse, il est question de la séphira de Malchut, et elle deviendra la couronne de son mari, ça veut dire qu'elle va s'élever au-dessus, comme une couronne, de son mari. Son mari représente toutes les autres séphirotes du monde d'Atsilut. Donc la séphira de Malchut, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Et c'est ce tag-là, l'épouse vertueuse, c'est même dans le pshat lui-même, l'épouse vertueuse deviendra réellement la couronne de son mari. Ça, c'est lié directement avec le fait que celui qui ne fait que recevoir de la lumière, mais qui le fait de manière profonde, alors il finit par dépasser son maître. Il devient vraiment comme une couronne qui surplombe une lettre. Donc cet enseignement-là, il s'accorde aussi avec l'Admor HaZaken lui-même. On sait que l'Admor HaZaken, parmi tous les élèves du Maguide de Mezrich, c'était celui qui, quand il était assis à la table du Maguide et qu'il écoutait un cours de Torah du Maguide de Mezrich, on dit que c'était celui qui était vraiment le plus battel au Maguide, celui qui parlait pas, qui ne faisait qu'écouter. Et on raconte qu'un jour, il y a un des amis de l'Admor HaZaken qui avait étudié avec lui à la table du Maguide. Il est un jour entré dans la synagogue, le bêta-midrash de l'Admor HaZaken, alors qu'il était absent, et quand il a simplement regardé l'endroit où vivait l'Admor HaZaken, il a dit que c'était celui qui avait pris les meilleurs morceaux. Sous-entendu, c'est celui qui avait attiré le plus l'enseignement du Maguide de Mezrich en lui-même, et qu'il avait diffusé ensuite autour de lui, même dans son propre bêta-midrash. Les meilleurs morceaux, ça désigne vraiment, même ça s'accorde avec le verset, quand on dit que celui qui travaille les jours de la semaine, alors il mange le jour du Shabbat. Les meilleurs morceaux, c'est quoi le meilleur morceau? C'est le dévoilement de l'essence divine. Alors c'est ici qu'on peut faire maintenant le lien avec la paracha Tekev. Le rabbi va nous enseigner dans le Devar Malchut, il va nous dire qu'on va bénir pendant ce Shabbat le mois d'Eloul. Et chacun sait que le mot Eloul, il rassemble les lettres de l'expression Anil et Dodiv et Dodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Alors le rabbi va nous expliquer, il va nous donner la signification profonde de Anil et Dodiv et Dodili. Anil et Dodi, ça correspond au travail du bas vers le haut. Le fait, même on l'avait étudié déjà dans le Dvar Malchut de la Parashat Matot Massé, on avait dit que Massé, ça représente les étapes des enfants d'Israël dans le désert, les 42 étapes que chaque juif a traversées dans le désert. Et ces 42 étapes, donc, elles symbolisent le travail du bas vers le haut. Ça, c'est lié avec l'action concrète, avec l'application des commandements divins, et ça correspond au travail de purifier le corps. C'est comme ça que le rabbi nous enseigne, et c'est essentiel de se rappeler de ça. Anil et Dodi, ça correspond au travail de purifier le corps, de le raffiner, de le sanctifier. Et c'est donc ça va de pair avec l'accomplissement des commandements divins, qui, comme on l'a dit, la majorité des commandements divins est accomplie au moyen de la poussière de la terre. Ça, c'est Rashi qui l'enseigne. Et on voit donc qu'à travers l'acte lui-même, on va dévoiler l'étincelle divine qui est dissimulée dans la matière, non seulement dans ce monde matériel, puisqu'on possède tous une part dans ce monde matériel qu'on doit sanctifier, mais surtout et avant tout en nous-mêmes, puisque notre corps lui-même, il est fait à partir de la poussière, et cette poussière-là, elle doit être raffinée, on doit la purifier, on doit la sanctifier, de manière à dévoiler, comme on l'a dit, l'essence divine qui se dissimule à l'intérieur de lui. Ça, c'est le travail de Anil et Dodi. Vedodili, ça correspond à un dévoilement du haut vers le bas, et ça, ça correspond au Shabbat, par exemple, et ou à l'étude de la Torah, puisque la Torah elle se situe au-delà de ce monde, et en étudiant la Torah, on va dévoiler une lumière qui vient d'en haut, et on va la dévoiler dans les limites de ce monde, justement. Alors, encore une fois, le Rabbi revient sur un point qui est sans cesse, il le répète inlassablement dans le Dvar Malchut, surtout pendant ce mois de Av qu'on est en train de vivre. Il explique que quand il s'agit d'un dévoilement du haut vers le bas, comme pour l'étude de la Torah, il a une force qui est illimitée, puisque c'est une lumière qui vient de Dieu, mais malgré tout, il ne pénètre pas de manière profonde en nous-mêmes. Quand est-ce qu'on parvient à dévoiler de manière profonde la lumière divine, à l'intégrer de manière véritable, c'est quand c'est un travail du bas vers le haut. C'est quand ça implique le travail personnel de l'homme. Donc, l'idéal, il est atteint quand on parvient à unir Anil et Dodiv et Dodili. C'est-à-dire quand on parvient à unir le dévoilement de la lumière de Dieu, qui est exprimée dans la Torah, à l'unir de manière profonde, à la faire descendre de manière profonde en nous-mêmes par notre propre travail, et notre propre travail qui doit être accompli de manière progressive, du bas vers le haut, comme à l'image de ces 42 étapes, et surtout en impliquant toutes nos forces, c'est-à-dire vraiment de travailler avec toutes les forces qui nous ont été données. C'est uniquement par ce travail personnel qu'on peut parvenir au plus haut dévoilement, au dévoilement de Dodili. Donc, on voit ici que le dévoilement de l'essence de l'âme, il dépend nécessairement de notre travail, de notre façon de nous attacher vraiment au quotidien, au rôle, au talent même, à ce monde matériel. C'est à nous impliquer dans ce monde matériel de manière profonde et ensuite d'attirer le dévoilement divin qui va s'unir à notre propre travail. Et là, on parvient vraiment, même le Rabbi n'hésite pas à parler du Yesh Ha'amiti Venitzri. C'est-à-dire que le Ani les Dodi Vedodili, ça devient le Yesh Ha'amiti Venitzri, ça devient un moi qui est un jeu qui est éternel et qui est vraiment, ça fait référence au dévoilement de l'essence divine. Alors pour finir, c'est important de souligner ici que le Rabbi, il va nous parler des personnes qui ne voient pas, des non-voyants, une personne qui est aveugle. Et il va nous dire que quand le Baal Shem Tov, il a demandé au Mashiach « Quand est-ce que vous viendrez ?» « Ei matai ka temar » Le Baal Shem Tov lui a répondu « Quand tes sources, elles se répandront à l'extérieur. » À ce moment-là, le Rabbi, il a réfléchi « Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Comment ?» De quel extérieur il s'agit, puisqu'il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour toucher les Juifs qui sont le plus éloignés. Mais le Rabbi, il a eu l'idée de toucher les personnes qui ne voient pas. Il s'est dit qu'il y a finalement, il n'y a pas plus extérieur que ces personnes-là. On doit se rappeler que la Torah, la Gemara, elle parle, elle a des mots qui sont très, très durs et pourtant qui sont empreintes d'une certaine réalité, puisqu'elle décrit. Elle emploie le mot qui désigne le contraire de la vie pour désigner une personne qui est aveugle. Donc on voit que la personne qui est aveugle, vraiment, elle se situe à l'extérieur. Elle est exclue de la société et le Rabbi vient remédier à ça. Et il vient nous dire l'importance d'imprimer des livres en braille pour permettre à ces gens-là d'étudier la partie profonde de la Torah, l'essence de la Torah. Donc ça, c'est répandre les sources du Baal Shem Tov à l'extérieur, à toucher ces personnes-là. Il souligne aussi que les aveugles seront les premiers à guérir au moment de la délivrance finale. Donc, on doit comprendre vraiment que la chassidoute, elle insuffle une vitalité à tout celui qui s'attache à son étude. Et en plus forte raison pour celui-là, pour cet homme-là qui est aveugle, on pourrait le qualifier même, on pourrait le comparer au niveau dont on a parlé, au niveau de l'inanimé, puisqu'il est décrit par la Torah comme quelqu'un qui... le contraire de la vie, qui n'est pas vivant vraiment, donc qui est inanimé. Le fait de lui donner la possibilité d'étudier les textes de Chassidut, et le Rabbi il précise que le livre du Tania traduit en braille, il est arrivé jusqu'à lui au 770, Donc le fait d'accorder de l'importance à cette personne-là, c'est ça, répandre les sources de la chassidoute à l'extérieur. Mais pourquoi on peut voir ici, pourquoi le rabbi vient rapporter cet exemple-là d'une personne qui est non-voyante, c'est précisément parce que c'est tout le sujet de tout ce Dvar Malchut. Évidemment, on doit se considérer soi-même comme une personne non-voyante, puisque tant qu'on n'a pas vu la Torah Hadasha, tant qu'on n'a pas vu le Mashiach et le Troisième Temple, on est aussi considéré comme des personnes qui ne sont pas réellement vivantes. Mais on doit vraiment comprendre que l'exemple il est judicieux, puisque cette personne-là qui est aveugle, elle désigne vraiment ce niveau-là du talon, la paracha Tekev. Donc ce qui semble être vraiment quelque chose qui est inanimé, quelque chose qui est grossier, et qui en réalité, il contient la lumière la plus élevée. On pourrait donner l'exemple du louz, cet os quand on l'humidifie avec le vin de la Havdalah, parce que c'est l'os qui est de la résurrection des morts, et on dit qu'il contient une lumière qui est plus élevée que la lumière du soleil. Donc on voit qu'à travers cet os-là qui nous semble quelque chose d'inanimé, de sans vie, il contient en réalité une lumière qui est supérieure à celle du soleil. Et c'est pas par hasard non plus que l'os, ça se dit en hébreu « etzem », et donc on peut parler ici même de « etzem aneshama », ou même l'essence divine, elle se cache, elle se dissimule dans le talon, à l'image de cet os-là, dans le talon de ce monde matériel, dans le talon de notre propre corps, et tout notre travail, c'est évidemment par notre attachement au Rabbi, qu'on peut révéler la force qui est dans le talon, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, et le Mashiach, Nao, Bezrat Hashem, dès à présent.